amis de Radio Occitanie et de la poésie, Les Poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Nous avons la joie de recevoir dans ce studio de la rue d'Assali à Toulouse, Jean-Louis Clarac. Jean-Louis Clarac, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu depuis Aurillac, le fief de maintenant de ce poète bien connu quand même des Toulousains depuis longtemps, hein. Ici à Toulouse. Nous allons parler, Jean-Louis Clarac, de ta dernière publication, La Rumeur, le fracas, aux excellentes éditions Jacques André, éditeur. Avant, si tu le permets, je voudrais faire une petite annonce sur un poète qui est aussi un poète de notre génération, hein, Jean-Michel Maulpois.
Oui.
J'avais beaucoup parlé de Jean-Michel Maulpois lorsqu'il avait édité Le Passeur, collection littérature, Le Voyageur à son retour. Et Jean-Michel Maulpois, là, vient de faire apparaître au Mercure de France Le Jardin sous la neige. Alors, Le Jardin sous la neige, c'est à propos de neige, j'ai eu cette réminiscence avec Christian Baupin qui avait écrit Cœur de neige. C'était aux éditions, ça a été repris aux éditions Fario cette année donc, et il dit: on peut fort bien vivre une vie que l'on ne vit pas, on peut indéfiniment supporter ce que l'on ne supporte plus. Voilà. Donc une phrase quand même assez je dirais assez sombre. Malgré tout, on peut supporter ce que l'on ne supporte plus, c'est-à-dire que on peut vivre comme un homme habitué dans la durée. Mais justement, je crois que le poète, et en tout cas ce que nous dit Jean-Michel Maulpois, c'est que pour ne pas s'insérer dans cette vie d'un homme habitué, c'est-à-dire un homme qui est en définitive voué à l'indifférence, parce que, comme a dit Christian Baupin, il supporte ce que l'on ne supporte plus, eh bien, il reste, bien entendu, l'art, et en particulier, la poésie. Voilà. Et c'est la poésie, comme disait l'autre, qui sauvera le monde. Georges Duhamel avait dit avant, c'est l'art qui sauvera ces cochons d'hommes.
D'accord.
Et puis, je voudrais avoir une pensée pour Sylvain Tesson, qui me semble très critiqué pour le moment, et que moi, j'aime bien ce qu'il fait. C'est un voyageur. Il dit, d'habitude, voyager, c'est faire voir du pays à sa déception.
Terrible comme phrase.
Oui, enfin, moi, je n'aime pas du tout.
Ah oui, ah
bon, Sylvain Tesson, pas du tout, mais bon.
Mais tu as lu vraiment, il a écrit sur Rimbaud.
Oui, mais bon, la marche avait Rimbaud. Oui, je me souviens de cela, il y avait toujours ces quelques minutes avant le journal de 8 heures sur France Inter.
Ah, j'ai jamais écouté, moi.
Et bon, oui. Pour moi, c'est une succession de clichés.
Ah oui, ah oui.
Bon. Alors, un de ces... J'avais choisi, parce que je n'ai pas de téléphone portable, moi. Et donc, lui, il dit pareil. Je n'ai pas de téléphone portable, car je trouve d'une insondable goujaterie d'appeler quelqu'un sans lui en demander préalablement l'autorisation par voie de courrier.
Oui, moi, ça, c'est...
Je refuse de répondre au drilling du premier venu. Les gens sont si empressés de briser nos silences. Tu vois, nos silences, on en reparlera avec ton œuvre. J'aime deux gars, l'encens, c'est donc cela, le téléphone, on vous sonne et vous accourez comme un domestique. Les sonneries sectionnent le flux du temps, massacrent la pâte de la durée, hachent les journées, comme le couteau du cuisinier japonais, le concombre.
Ouais, voilà. Bon.
Alors, il y a ça, mais bon, il parle du temps quand même, du silence, et d'une espèce de recueillement aussi qu'il faut savoir situer un peu dans sa vie, organiser un peu ce repli un peu sur soi, voilà, dont tu parles très bien d'ailleurs dans le livre La Rumeur et le fracas. Alors Jean-Michel Maulpois, je disais, il avait écrit Le Voyageur à son retour, donc sur les voyages, une espèce de carnet de voyage, donc très très intéressant. On en avait parlé ici. Et il revient avec Le Jardin sous la neige. Alors, ce Jardin sous la neige, Il parle de l'écriture, par exemple, il dit « L'écriture est ma façon à moi d'être seul ». Tu vois ce que disait Tesson, c'est ça aussi quand même, hein, ce besoin aussi de solitude. Et l'écriture, je suis persuadé en te lisant que toi aussi, c'est ta façon à toi aussi, cette écriture, d'être seul. J'écris au fond de ce terrier de Ragondin où je passe tout l'hiver. Bon, ça, c'est là où il est. Il s'est fait une comment dirais-je, comme les enfants, une cabane, là. C'est aussi une façon de se mettre nu, d'arracher ses pelures et de se retrouver pauvre comme Job sur son fumier, grattant ses plaies avec un tesson de bouteille, maudissant sa naissance, le cœur plein d'effroi. Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour de ma vigueur. Bon, voilà. Là on va retrouver évidemment le temps qui passe et cette nostalgie, bien entendu, de ce qu'a été les heures plus clémentes et plus faciles. On s'en va, on donne son congé. Il fait un froid trop sec dans cet hiver perpétuel. On ira habiter ailleurs, chez la voisine, sous de vastes portiques, loin, bien loin, comme un bohémien, dans un hameau de montagne où tintent de lourdes cloches, la même où les oiseaux sont ivres sous les citronniers d'or. À vrai dire, on voudrait disparaître sans laisser d'adresse, en poussière, en fumée, en résidus de paroles. On appelle en vain dans la nuit, seul répond le silence des ombres. À quoi appartient-il ce corps de carton, de pierre ou de bois, couché sur le dos, les mains jointes, au milieu d'un rectangle de blancheur? De quelle éternité fait-il l'apprentissage? Il n'y manque que des fleurs. Voilà. Je crois que c'est une poésie, une écriture de Jean-Michel Bolpois, et particulièrement donc dans ce livre, Le Jardin sous la neige. C'est une écriture qui me fait penser un petit peu, malgré tout, à l'écriture de Michel Cozem, un peu à ce mouvement qui a été lancé par Michel Cozem avec Gilles Lade, etc., hein, qui est un retour un peu à cette intériorité de soi, et cette intériorité de soi qui est très attentive au paysage, à l'entourage, à l'oiseau qui chante, à tout ce, en définitive, qu'on est en train de perdre, que nous, les citadins, nous sommes violemment en train de perdre ça, et en perdant ça, on perd ce recueillement dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette intériorité, ce besoin aussi de contempler le monde dans ce qu'il a quand même d'extraordinairement merveilleux. Voilà. Et Le Jardin sous la neige, c'est ça. Comment Jean-Michel Maulpois, à la fois, il y a cette contemplation en définitive, qui est la contemplation du monde. En contemplant un jardin, on va contempler tout le monde. Il y a ce plaisir extraordinaire, extravagant de la contemplation, et cette espèce de jubilation indéfinissable que procure le paysage, lorsqu'on se fond dans ce paysage, lorsque on est dans l'âme du paysage, et en même temps le thème que l'on va retrouver chez Jean-Louis Clarac dans La Rumeur, le Fracas, ce thème aussi du temps qui passe. Voilà, cette espèce de aller et venu du temps, hein, rythmé, là on va voir avec Jean-Louis Clarac, ça va être l'océan, donc la vague, le ressac, etc. Et chez lui, là, chez Jean-Michel Maulpois, il y a aussi cette blessure qu'est le temps. Parce que le temps va modifier tout ça, va faire disparaître tout ça. En tout cas, Le Jardin sous la neige, je vous invite à le lire, c'est aux éditions Le Mercure de France, et ça vous coûtera la somme de 16 euros. Mais on est là dans cette poésie de la contemplation, cette poésie qui est aussi facile à lire, facile à lire. Alors, il dit par exemple, j'en finis avec ça, « Jamais plus de poèmes, Je ne voulais écrire que de petites proses acides, aux phrases sèches et à la syntaxe coupante, des verdicts sans appel, plus de mélodies, plus de chagrin d'amour, plus de chants du sommeil et des choses révolues. Quand le besoin s'en fait sentir, chacun est à même d'emprunter à la bibliothèque les livres des autres. Il retrouve sans peine ces vers que l'on se récite en pleurant. Mais ici, plus de tendresse, de colère, ni de grondements d'orage à l'approche de la nuit, juste un silence plus lourd, plus épais, plus dense. Je me prépare, il prendra bientôt toute la place dans la gorge. Il faudrait écrire avec des mots perdus, dans une langue que personne ne parle. Ah. Bon, je crois que tu ne... Tu souscrirais à ça,
oh, oui, oui, bien sûr. Oui, oui, effectivement. Oui.
Parce que je retrouve cette idée, je le retrouve dans tes textes. Mm. Je le retrouve dans certains de tes textes. On va en parler, mais je retrouve ça. Donc je me dis, c'est bon, il y a quelque chose d'universel, hein, dans voilà pour Jean-Michel Maulpois. Alors Jean-Louis Clarac. Jean-Louis Clarac, je disais, il est connu parce que il est né dans les Corbières.
À Limoux.
Donc une très belle région, hein, la région de Limoux, qui fait cette magnifique blanquette, hein, qui a été antérieure au champagne, hein, il faut le revendiquer.
C'est ce,
hein,
qui se dit, effectivement.
Voilà. Oui. Et qui a fait ses études donc à Toulouse, à l'université de Toulouse, et qui, dès les années 80, je me souviens de le feu mis au sarment.
Oui, exemple, maquis, le feu mis au sarment.
Voilà, c'est le maquis mis au sarment, pardon, oui. Qui avait été publié à Tribu. Et tu as publié, d'ailleurs, chez Mia Martin, depuis 1978, je me souviens de José Mia Martin, dans L'écart au cœur, Maquis, le feu mis au sarment, ça a été chez Tribu. Et puis Encre vive, L'éther vague, hein, Carnaval, Ode, alors L'éther vague,
Patrice Thierry.
Avec Patrice Thierry, dont il faudrait quand même aussi perpétuer la mémoire.
Bien sûr.
Parce que ça a été quelqu'un d'extraordinaire, à la fois sur le plan de l'écriture, mais surtout sur le courage éditorial. Hein, un éditeur qui est parti de rien, avait rien, etc. Et qui a publié de très très beaux textes, hein, avec vraiment des moyens insignifiants. Il a réussi à surmonter tous ses handicaps.
Oh, il a même publié Armand Gatti. Voilà. Oui.
Il a publié Armand Gatti. Oui. Voilà. Mmh. Patrice Thierry, qui a publié Carnaval, Ode, de Jean-Louis Clarac, c'était en 1985. Et puis bon, tu vas publier chez Encre Vive. Ensuite, aux éditions Clapas, je vois Encre Vive beaucoup. On va te retrouver dans le Panorama 2001 qu'avait fait
Medge,
notre ami aussi regretté, Julien Medge, lieu dit du dépaysement. Hein, c'est dans le diaporama, je me souviens de tous ces poètes qu'il avait lui aussi publié, un peu avec un système, bon, à lui, très artisanal.
C'était vraiment très artisanal.
Voilà, très très artisanal. Oui. Et puis de nouveau, tu vas publier un tas de recueils à Encre Vive, dans la collection Lieu, par exemple, Ligne de Crète, Fond d'Égée, pour un voyage que tu avais fait en Crète.
Hein, oui. Hein. Mmh.
Et puis, Vibrations en partage, alors des moments poétiques, 2006-2013, La Porte des Poètes, Théâtre d'Aurillac, tu le publies ça en 2014. Alors, on va tout de suite dire de quoi il s'agit. Tu habites Aurillac, et tu perpétues à Aurillac ce que tu appelles les moments poétiques.
Voilà, oui, j'ai mis en place cet événement, les moments poétiques, en 2006, janvier 2006, en proposant au théâtre d'inviter des poètes à venir présenter donc leur création. Et donc cela dure depuis 2006. Nous en sommes à plus de 120 poètes invités au théâtre, à la médiathèque, au musée d'Aurillac.
Voilà. Alors je veux dire que l'accueil est très chaleureux, puisque bon, j'ai bénéficié de cet accueil, hein, et vraiment c'est vraiment des moments très très agréables, et là il y a un vrai travail. Et souvent je me suis dit que dans une ville plus moyenne comme ça, qui est Aurillac, il y a, semble-t-il, une densité de public plus importante que dans les
je ne sais pas si c'est plus dense qu'ailleurs, mais bon, oui. Il y a, disons, bon, je suis plus modeste, oui. Je dirais un petit public.
Oui, voilà. Oui.
Une vingtaine de personnes viennent assister à ces lectures.
Oui. Alors, après ces moments poétiques qui continuent, nous les signalons sur notre site lespoètes.site. Tu fais paraître Visage avec des encres de Catherine Dupire, aux éditions Le Fro. Et puis, ce qui passe dans les saisons, là on va retrouver la nature, les saisons. Au carnet des Lierles, ça je ne connais pas du tout.
Les carnets des Lierles ont été fondés par Nicole Drano-Stambert, qui est décédée depuis au mois de juin, pratiquement en même temps que Michel Cozem, et son mari, Georges Drano.
Pardon.
Tous deux avaient fondé des rencontres de lecture, de poésie. À cette occasion, ils publiaient un petit fascicule dans lequel il y avait des poèmes de chaque poète invité.
D'accord. Et puis, alors, avec ta compagne, Françoise Cuxac, qui est une artiste plasticienne, tu vas publier Le Vacarme du Monde. Donc, elle va faire les encres de couverture.
Oui.
Et ce sont des recueils qui sont rassemblés sous étui et qui vont être réédités, d'ailleurs, par Encre Vive dans la collection Encre Blanche.
Voilà, Encre Blanche,
voilà.
Oui.
Avec toujours Françoise de Cuxac, tu as publié très récemment, donc, au Petit Véhicule, en 2018, Lisière trouble des métamorphoses. Avec les photographies, donc, de
voilà, c'est Françoise. Ça. Donc, Françoise, j'ai écrit autour et sur l'œuvre créatrice de Françoise, ses sculptures.
Oui.
Donc, les poèmes ne viennent pas illustrer son travail, mais apportent, les mots sur son travail. Et donc, c'est un dialogue, finalement, entre nous deux.
Oui, c'est souvent comme ça. Et c'est d'ailleurs souvent les grandes réussites, c'est ça. C'est un véritable dialogue entre deux artistes.
Oui.
Et un plasticien et un poète, ça, généralement, quand ça dialogue bien, ça donne de belles choses.
Oui.
Et avec des gravures d'Alain Puy-Grenier, au cahier des Passerelles, donc c'était il y a 2 ans, aux confins, la vie au cœur. Donc, au cahier des Passerelles.
Oui, c'est celui-ci,
voilà.
Là.
Oui. Oui, voilà. Tu pourras peut-être nous en lire quelques extraits.
Oui, d'accord.
Tout à l'heure,
oui.
Avant que l'on parle de ça.
Oui.
Alors, Jean-Louis Clarac, donc, on a vu une œuvre de poésie importante, et une vie d'enseignant à Aurillac.
À Toulouse, un peu partout dans l'Académie de Toulouse, et puis à Aurillac, oui, effectivement.
Oui. Oui. Tu t'es fixé ensuite à Aurillac, qui est ton point d'ancrage dans lequel, apparemment, tu te plais beaucoup.
Ben oui, oui. Je m'y plais, oui.
Mais bon, je crois qu'il n'y a pas... il faut dire ça très, très fort.
Oui.
Quand on est bien quelque part, moi, je trouve ça merveilleux, quoi.
Oui.
Une action poétique avec ces moments poétiques donc dans la ville d'Aurillac. Et puis Jean-Louis Clarac a toujours été proche de Michel Cozem et d'Encre Vive, et donc est au comité de rédaction d'Encre Vive.
Oui.
Pendant toutes ces années.
Depuis le début des années 90.
Voilà. Oui. Voilà. Et Michel Cozem ayant disparu il y a maintenant
6 mois.
Les éditions Encre Vive et la revue Encre Vive va continuer.
Oui.
Voilà. Va se perpétuer. Mmh. Voilà. Mmh. Et donc c'est à des gens, grâce à des gens comme toi, comme Eric Chassefière, qui va prendre la direction, donc, des éditions Encre Vive.
Oui.
Les éditions Encre Vive, donc, vont pouvoir de nouveau faire connaître la poésie contemporaine. Voilà. Il faut dire que l'œuvre de Michel Ecker, Michel Cozem, excusez-moi, c'est un lapsus intéressant, de Michel Cozem, est quand même considérable dans la mesure où il a certainement publié le plus de poètes que n'importe quel autre éditeur en France.
Il me semble que...
De 1960 oui. à 2023,
oui.
C'est hallucinant.
Oui.
Vraiment, vraiment. Mais... Le nombre, et tous les grands poètes, en définitive, sont passés, à quelques exceptions près, sont passés par les éditions Œuvres Vives.
Mmh. Oui, 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 oui. On n'est pas tout à fait précis au niveau des chiffres, mais oui. Il a publié plus de 500 poètes
oui.
dans les trois collections,
oui.
Ce qui fait à environ 1800-1900 titres
oui. Oui,
depuis
oui.
1960, oui, oui. ce qui est quand oui. même énorme
ce qui est, oui,
dans le panorama poétique en France,
oui, où les revues sont souvent très éphémères,
oui.
à part trois ou quatre. Mais souvent, c'est des revues qui tiennent quelques années et puis qui disparaissent.
Oui, oui, oui.
Voilà, souvent parce que l'animateur principal disparaît.
Oui.
Et,
oui.
Voilà, je pense à par exemple.
Mais Jean-Pierre Thuillat, la revue Friche.
Avec la revue Friche, oui. voilà, ça a été oui, le oui. cas, par oui. exemple. Hein, voilà, oui. qui faisait aussi un très, très oui. bon travail. Oui. Voilà. C'est souvent intuitu personné véritablement les revues, les éditions. Mais là, je crois que le miracle, entre guillemets, c'est que, ben, il va y avoir, du fait, je crois, de l'impact considérable qu'a eu Encre Vive quand même.
Oui.
Hein, cette volonté tenace donc, de poursuivre.
Oui.
Parce que ça manquerait totalement dans le paysage éditorial français.
Oui.
Voilà.
Mmh.
Alors, est-ce que tu peux nous dire, sur le plan pratique, pour les auditeurs qui sont à l'éveil, là, comment on peut s'abonner à Encre Vive actuellement ?
Alors, pour s'abonner à Encre Vive actuellement, le mieux, c'est de passer par, comment ça s'appelle, Internet, là, et de taper Encre Vive 34, et on a toutes les informations... puisque dorénavant le siège de la revue Encre Vive est situé à Frontignan et c'est Éric Chassefière, comme tu l'indiquais tout à l'heure, qui a eu le désir de continuer le travail de Michel Cozen. C'est la raison pour laquelle donc je crois que début février un numéro spécial Michel Cozen va être publié dans un nouveau format par Encre Vive. À la suite de ce numéro, il y aura un inédit de Michel Cozen, également en 32 pages. Et ensuite, il y aura trois autres titres, plus un titre dans la collection Lieu, et deux titres dans la collection Encre Blanche. Donc, le départ est bien entamé, là, c'est assuré. Voilà. Donc, voilà.
Voilà. Alors, concrètement, Encre Vive 34.
Oui.
Hein, et on tombe sur un site.
Le site de. Voilà. Et donc, Éric Chassefière.
On peut payer directement.
Alors, oui, après, soit par.
Où il y a une adresse.
Où il y a une adresse, donc il y a toutes les modalités pour pouvoir s'abonner.
Par exemple, oui. Les gens comme moi, qui sont des gens attardés.
Oui.
à la technologie, peuvent payer par chèque.
Bien sûr. Bon. Oui, oui, voilà. Ben oui, voilà. Oui, oui.
Bon.
Tout est possible.
Voilà, bon, je veux rassurer tout le monde. Bien, Jean-Louis Clarac, La rumeur, le fracas, aux éditions Jacques André, dans la collection Poésie 21e. Je vais lire ce qu'il y a en quatrième de couverture, je pense, quand même. Il faut voir avec dans le poète une sorte de musicien qui chercherait en tout temps et en tout lieu à accorder son dérisoire instrument entre le fracas du monde et le fragile équilibre de la noosphère. Un passeur d'harmonie, mais une harmonie sans cesse déchiquetée et par les vagues de l'océan et par le temps des hommes. Devant la mer, à l'unisson des éléments, la démesure de l'espace et les aléas du temps ouvrent en nous la conviction de partager monde et terre avec l'ensemble des vivants. La rumeur, le fracas, présente en quatre mouvements la fragilité de l'existence prise entre la beauté et la tragédie du monde. Dans l'écart entre l'une et l'autre foisonnent les contradictions et les doutes, mais aussi les désirs et les émotions des êtres singuliers que nous sommes. Voilà.
Donc une très belle explication sur le quatrième de couverture.
C'est rarement réussi comme ça. Hein. Il faut dire.
L'éditeur voilà. Travaille bien là.
Il fait très bien. Et ça résume très, très bien quand même le contenu du livre. Alors, il y a, je disais tout à l'heure, on est là dans cette contemplation de la nature. Alors, pas n'importe quelle nature, puisque on est près de l'océan, que l'on suppose être l'océan Atlantique. D'après ce que l'on peut voir, il n'y a aucun signalement précis du lieu.
C'est voulu.
Voilà, c'est tout à fait entretenu. Donc, parce que ça peut être aussi quelque chose d'universel.
Exactement.
Entendu, hein,
oui.
Voilà.
Exactement.
Mais, on semble reconnaître cette région des Landes, hein, où il y a à la fois les dunes, on voit l'océan. Et bien entendu, les pins, c'est-à-dire les arbres. Voilà. On a les trois éléments, le sable, l'eau, l'arbre, et puis, bien entendu, ça fera partie de la quatrième partie de ce livre, le soleil, la lumière, le soleil. Mmh. Voilà. Et donc, dans ce mouvement alternatif entre l'eau, de l'océan, le sable, donc la terre, il va y avoir un climat différent et un environnement sonore qui va changer selon la position dans laquelle on est. Selon, en définitive aussi, si j'ai bien compris, selon l'état d'esprit dans lequel on est, c'est-à-dire, est-ce qu'on va recevoir ce bruit de l'océan comme un bruit de fracas, ce bruit de fracas, en s'en éloignant, va être une espèce de rumeur ronronnante, apaisante, et petit à petit peut-être se faire oublier, et parvenir à l'extase qui serait le silence.
Voilà. Bon, je crois, Jean-Louis, que tu devrais d'abord nous dire un peu comment est née l'idée, l'envie d'écrire aussi longuement, en définitive, sur ça, la rumeur, le fracas. Parce que moi, quand j'ai lu ça, je l'ai lu d'une traite, hein.
Oui.
Peut-être qu'il ne faut pas, mais je l'ai lu d'une traite et après je l'ai relu. Mais quand j'ai commencé à le lire, il fallait que je le termine. C'est, bon, on n'est pas dans un policier, il n'y a pas d'intrigue, etc. Mais j'avais cette nécessité de lecture d'aller jusqu'au bout. Et il m'a semblé, en définitive, que c'était une espèce de poème continué.
Oui.
Tu vois ?
Oui, oui.
Voilà. Tu commences le poème là, c'est pour ça peut-être que je n'ai pas voulu l'interrompre dans ma première lecture, parce que j'aurais interrompu une trajectoire. Tu vois, ça aurait été malvenu, malséant d'interrompre ça. C'était continuer, voilà. Je dis, où est-ce qu'il va ? Et toujours, tu m'entraînais quelque part. C'était, on voyait qu'on parlait toujours quand même de la même chose, mais avec un tel, comment dirais-je, un tel foisonnement en définitive d'idées et de regards sur cette même chose, que ben on arrive à la fin presque, comment dirais-je, presque par inadvertance. Tiens, il y a eu tout ça. Voilà.
Mmh. Pour compléter ce que tu dis, ce livre, La rumeur, le fracas, c'est une sorte de prolongement d'un précédent qui avait pour titre Le vacarme du monde, où justement je parlais des contradictions dans lesquelles les hommes sont, c'est-à-dire il y a à la fois cette recherche de la beauté, de l'apaisement, de la sérénité, comme tu disais tout à l'heure, et en même temps tout ce qui nous vient du monde dans lequel nous sommes et que parfois nous subissons. Donc Le vacarme du monde, c'était ça. Donc il y avait tout un passage sur tous ces peuples migrants
Oui, mais on, oui, que l'on retrouve,
voilà. Que l'on retrouve, mais
de voilà. façon plus oui. métaphorique,
oui. Voilà.
beaucoup plus diluée, oui. Mais que l'on retrouve, que oui. l'on retrouve totalement.
Et là, dans celui-ci, j'ai, comment dire, j'ai mis en parallèle deux voix qui me semblent être les miennes. Une voix qui est justement le rapport au paysage, à la nature, la recherche de la... aller chercher la beauté dans ce monde-là. Et en même temps, la dénonciation des horreurs
oui.
que ce monde provoque par l'intermédiaire des hommes.
Oui, voilà. Oui, c'est ça.
Et donc, j'ai mené oui. cela de front.
Oui. Hein,
dans trois grands domaines, comme tu disais, les Landes, enfin, oui, globalement, oui, oui. c'est-à-dire oui. L'Atlantique Sud, oui. puis la Bretagne et la Normandie, oui. et enfin la Méditerranée. Oui. Et oui. le quatrième mouvement fait en quelque sorte la synthèse de tout cela.
D'accord. Voilà. Tu es professeur de philo.
Oui.
Il y a...
J'étais, oui.
Oui, tu étais.
Oui. Bon.
Donc, parce que il me semble quand même que il y a sous-jacent, il y a quand même, comment dirais-je, on voit quand même qu'il y a une pensée qui est une pensée aussi qui dépasse, si tu veux, qui reste. Il y a une trace quand même là-dedans de justement d'une pensée philosophique.
Oui, mais alors voilà. je serai prudent.
Je sais que tu vas
oui.
voilà, et que tu veux détacher peut-être bon, le raisonnement philosophique est un raisonnement avec la raison, etc., oui. L'art de l'argumentation et tout ça, du raisonnement intuitif et comment dirais-je épidermique, qui vient de profondeur, de l'intériorité, vraiment de la sensibilité. Mais malgré tout, il me semble que ça transparaît, ne serait-ce que peut-être dans la construction des choses, tu vois, parce qu'il y a une écriture qui est une écriture très fine, mais très amenée et à mon avis très travaillée quand même.
Oui, 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 d'accord.
Je ne crois pas que ton écriture arrive comme ça, soudainement, comme une espèce de...
Je ne suis pas du tout dans oui. cette idée que oui. c'est le premier jet
oui,
qui...
Oui, oui.
Non, ça pas du oui. tout. Ça n'a rien à voir oui. avec ça. Tu parles de la philosophie. Bon, je suis très éloigné de la philosophie, dans le sens où je ne me réfère à aucune pensée philosophique.
Oui, voilà, ça c'est vrai.
Mais
oui.
disons que si je faisais référence à un philosophe, ce oui. serait Bachelard, dans le sens où... c'était à la fois quelqu'un d'extrêmement oui. rationnel oui. et en même temps quelqu'un au plus proche des sensations.
Oui, tout à fait. Alors, il y a un de nos amis, Jean-Luc Pouliquen, que tu connais, qui a beaucoup écrit sur Bachelard et qui justement a développé ce que tu viens de dire d'une façon irréfragable. Quoi. Oui. C'est vrai. C'est, voilà. C'est certainement le philosophe qui est le plus près de la poésie. Quoi.
Mm-hmm. Oui.
Bachelard, ben, Gaston oui. Bachelard. Voilà. Oui. Ce de même, si c'était pas plus un poète qu'un philosophe.
Hein. Oui, parce qu'il y a des oui. textes qui sont vraiment
très poétiques.
Qui emportent
oui,
loin,
oui.
quoi.
Oui. oui. Sur les quatre éléments, par exemple.
Ben oui, c'est ça. Ouais. Ah oui, c'est sûr.
Alors, on va t'écouter, parce qu'on oui. est très bavard, mais il faut faire donner le ton de ce livre.
Pourquoi écrire seulement mu par la beauté des êtres, celle des paysages ? Est-il seulement pensable de taire ou dire que femmes et hommes sont écorchés par les actions mortifères de l'homme ? Pourquoi dire cela ? Oui, dire aussi cela. Ainsi, entre vérité et réel, nous cherchons la trace possible d'un regard ouvert, d'une main tendue, d'une bouche offerte.
Alors, tu es allé directement donc à un texte, effectivement, que j'avais beaucoup mis en exergue, parce qu'il me semble être véritablement la synthèse de ce que nous avons dit, c'est-à-dire à la fois ce regard donc, de contemplation de la beauté des êtres et des paysages, mais ce regard qui n'empêche pas, bien entendu, la lucidité de voir aussi le monde tel qu'il est.
Et oui.
Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est un des textes qui est le plus ramassé, d'ailleurs, du livre, hein, qui est le parmi les plus courts, de,
oui.
Mais qui est une espèce de synthèse aussi de l'œuvre totale. Hein. Voilà. Alors on va, maintenant je vais te demander de lire des textes qui sont des textes, parce qu'il y a un lyrisme quand même, on est emporté par le lyrisme. Moi j'aime ça, ces poèmes qui sont des poèmes assez longs, etc., que l'on peut lire d'ailleurs à la suite des uns des autres, parce qu'ils s'enchaînent parfaitement, il n'y a pas de... quasiment la séparation peut vraiment se sauter. On pourrait presque même les mettre les uns à la suite des autres, sans qu'on y fasse véritablement attention. Alors voilà, je te demande si tu veux bien nous lire, tu commences où tu veux. Moi, par exemple, je te recommanderais commencer à la page 29, par exemple.
Page 29.
Le mimétisme du labeur des femmes et des hommes. Là aussi, tu reprends cette idée aussi de la présence quand même humaine et de ce que fait l'homme, parce que mimétisme du labeur.
Voilà. Mimétisme du labeur des femmes et des hommes et des forces élémentaires. Les murs de pierre sèche se fondent dans les roches. La basse mer découvre un étrange relief où mille cuvettes boivent le ciel, où autant de ciels décomposent leur limpidité qu'en pointillés les éclairs des oiseaux sautant d'un trou à l'autre illuminent subrepticement. Fil conducteur de la beauté tissée, faux fil d'une terre et d'un ciel alliés, toujours renouvelés. Dans ce bâti humain qui cerne les trésors marins, que piègent et filtrent les bouchots, chaque crustacé, chaque mollusque, chaque poisson est la matière d'un poème subtilisé à la masse océane, comme si l'océan était un babel de langues dont l'écluse retiendrait quelques particules et qu'il suffirait d'en rassembler les mots pour écrire un poème.
Très beau texte. C'est un très beau texte. Et on retrouve là toujours, hein, tu parles du labeur des femmes et des hommes, et puis dans ce bâti humain qui cerne les trésors marins. Donc il y a toujours ce va-et-vient entre la nature, cette contemplation de la nature, cette espèce de... comment dirais-je, de fascination de la nature par sa beauté, etc., mais aussi l'œuvre de l'homme qui est à côté,
la réalité du travail humain.
La réalité du travail humain. Voilà, si tu veux bien poursuivre, s'il te plaît.
Toujours dans...
Oui, comme tu veux. Ce qui te paraît le plus significatif, alors, si tu préfères.
Nous marchons sur des chemins de granit entre océan et océan, au milieu des herbes rases, soufflées par le vent. Nous cernent les eaux bruyantes qui brouillent le silence. Il nous suffit d'avancer vers le phare au bout de l'île pour éprouver pas après pas que le silence est ici une enveloppe vide, tant les éléments absorbent son sens dans leur démesure. Nous sommes d'emblée plongés dans le fracas. La rumeur est noyée par la force des eaux entre deux assauts engloutis. Le vent nous masque la rumeur, rivalise avec le fracas. Nous n'entendons rien d'autre que leur puissance s'affronter, se heurter, déflagration des vagues contre bourrasque de l'air. Là-bas, l'océan s'éparpille sur les rochers avant que la marée déverse ses vagues en un tintamarre quotidien sur ce caillou du monde si fragilement en péril quand se lève la tempête parfois, avant qu'infernale, ses déferlantes sapent, rongent et avalent continuellement son étendue. Ici, les bruits sont des notes élémentaires. Le vent, la vague, l'oiseau, une partition permanente, une osmose sonore orientée. Ici, nos rois et surrois dialoguent sans fin, entêtent bêtes et humains, exacerbent les sensations, ébouriffent les sentiments. Sous nos pas résonnent les galets, leur chant double celui que le vent fredonne, ou mugit, ou hurle, selon le jointement des éléments. Le bruit de fond de l'univers roule et s'échoue ici, sur ce bout de monde. Nous marchons sur des champs de galets, luisants d'humidité. Ils sonnent sous nos pas ajustés à leurs courbes irrégulières. Nous glissons parfois et nous nous agrippons l'un à l'autre, éprouvant la pesanteur du lieu. Le vent cingle la peau, vivifie le corps tout entier, avive ce qui tient lieu d'âme, les ouvre à l'épure. Dans les anses courtes entre terre et eau, gisent les galets, pêle-mêle entassés, que l'explosion des vagues repousse sans cesse sur le rivage, ajuste, réajuste, déplace, ordonne, désordonne. Le vent joue avec leur rondeur, leur voix multiplie une sourdine, un écho affaibli des tempêtes fomentées au large, le cœur permanent d'une partition en boucle, un champ minéral ondulant constamment, se perd et revient, et se perd et...
Il y a un texte aussi où tu parles de la mer. Tu dis la mer, lieu de la finitude humaine, lieu de l'infinitude humaine aussi. Tant bien les deux. Là, on voit le philosophe aussi quand même. Hein.
D'une façon inconsciente.
Peut-être.
Là, tu manies les deux notions, la notion de finitude et d'infinitude. Alors, prise dans le vertige abyssal de l'ignoble. Bon, là aussi, métaphore, on voit tout de suite l'effet humain auquel tu penses.
Oui.
Hein, donc, ces migrants qui gisent évidemment dans les fonds marins. Et en quatre vers, il y a quand même là quelque chose. C'est là que je te disais vraiment la finitude. Lieu de finitude et de l'infinitude humaine. Donc les deux en même temps.
Oui, voilà. Oui, finitude dans le sens où, évidemment, nous sommes cernés par tout cela, et infinitude parce que cela ouvre également des voies. Cela permet effectivement, bien que nous sommes cernés par tout cela, justement par la capacité d'intériorisation, Nous ouvrons d'autres espaces à nous-mêmes.
Oui.
Il y a cette idée-là aussi.
D'accord. Voilà. On peut le lire peut-être, page 78, si tu veux bien.
Oui. 78. La mer, lieu de la finitude humaine, lieu de l'infinitude humaine aussi, prise dans le vertige abyssal de l'ignoble. Dans la ténuité de l'écart entre lune et soleil, nous n'irons plus vagues abondées au clair de lune, ni de l'autre, car vague est la mer comme terrain vague, où indéfiniment erre, déserte, vogue, divague, hommes et femmes, tragiquement, abondamment. Vague, est-il le mot qui nomme la vague ?
Voilà, oui. Alors, ce texte, c'est le texte où il y a, dans tout le recueil, dans tout le livre, les vers les plus courts.
Oui.
Où il y a des vers où il y a, par exemple, juste un mot. Oui. Hein, où il y a car, où il y a air, désert, de vogue, etc. Voilà. Donc il y a cette idée, effectivement, de séparation. Dans le récit de l'ensemble de ce poème continué qui est la rumeur, le fracas, il y a là ce texte qui arrive là et qui est effectivement, moi je me dis la mer, bon pourquoi il a fait ça, etc. En même temps, ça marque, comment dirais-je, un peu comme le bruit de la mer, car une espèce de rythme.
Oui, c'est un rythme qui est différent
de, voilà,
effectivement, et aussi une sorte de scansion.
De scansion, oui. Voilà, c'est ce que comme ça que je l'ai ressenti, c'est pour ça que je l'avais noté. Et on ne peut pas, alors on a quand même encore quelques minutes, bon, si tu veux, tu vas continuer, s'il te plaît, à nous lire certains textes, et on finira, bien sûr, par le texte, page 88, et le dernier texte.
Tu veux que je termine comme ça là,
alors, oui, mais on n'en est pas encore.
Ah, d'accord.
Venez-nous en lire quelques autres poèmes, quand même.
Oui, alors je vais lire. Donc, c'est dans le troisième mouvement, le ciel, l'eau, la terre, le soleil. Nous marchons sur le chemin de calcaire entre les roches vers la crête de l'île. Serpent blanc sous le soleil incandescent. Le chuintement des cistes tremblant dans la brise chaude de l'été ébranle le silence. Ici, malgré la profusion des plantes, aucune outrance, sinon la démesure de l'infiniment petit. Le temps est affalé sur le paysage comme un arrêt de l'écoulement de lui-même, comme une pétrification entre moiteur et torpeur. Tout, autour de nous, est plongé dans la blancheur. L'île est blanche, non de neige hivernale, mais blanc d'une offuscation de la vision, blanc du tarissement des couleurs. Étrangement, le fond sonore du monde étouffe le bruit des vagues, réduite à une rumeur si étroite qu'elle ne trouble la quiétude de l'instant. Comme si la monochromie de l'espace était l'effet de l'écrasante uniformité du temps, au point de donner l'illusion qu'il arase le relief de l'île. Dans les criques profondes, le cirque incessant des insectes cisaille l'air, décompose le silence, en autant de notes que possible, jusqu'à son évanescence. C'est le creux de l'heure, quand l'absence de vent est un répit pour les oiseaux, les plantes et nous, qui nous arrêtons de marcher sous la chaleur de midi. Stase, quand le soleil seul liquéfie le monde, les ondes vibrent, les essences s'apprêtent à enflammer l'île.
On pourrait passer alors maintenant à la page 88, je crois.
Oui, c'est ça. Oui, c'est quasiment la fin du livre, hein, c'est les dernières pages du livre.
On peut peut-être remonter, puisqu'on a quand même quelques temps de... On pourrait remonter... On pourrait remonter à la page 85.
Voilà. 85,
oui. Crête aiguisée et la vague. Faucheuse, voilà.
Crête aiguisée et la vague, faucheuse, moisson morbide des êtres perdus, dévastés, dans les chemins de terre et d'eau, puisque vague n'est pas le mot pour nommer la vague. Quand l'estran indéfiniment regorge et dégorge les étrangers téméraires, jetés sur les chemins des terres et des mers, et pleurés par les larmes des pères et des mères, fous d'espoir pétrifiés, quand l'estran amarre les corps dans son émancelant de sable, la parole se noue dans la gorge du monde, langage imperceptible dont il semble qu'on entende faiblement l'appel de détresse, mais non. Vague n'est pas le mot qui nomme la vague. Oui.
Pardon, je vais te demander, j'ai laissé passer ça, je suis impardonnable, il faut que tu nous lises le poème de la page 84, tu vas comprendre tout de suite pourquoi. Juste à côté.
Oui. L'écume à la crête des vagues et leur salive exsudée, l'ultime goutte de leur respiration, l'expiration ultime. Il n'y a pas de terre promise, ni de mer de passage. Juste un cimetière sous-marin où sont enfouies les illusions humaines. À la crête des vagues, les soupirs, les râles, les cris de douleur composent un train lancinant que ressassent les flots, porte-voix de ceux qui, ni morts ni vivants, errent en mer et finissent par disparaître entre lune et soleil ou sous les étoiles muettes. Est-il encore audible ? Ce chant entre deux astres de nous enchanter Gaston Puel, alors que vague n'est pas le mot qui nomme la vague.
Voilà. Alors j'ai tenu à ce que tu le lises. Et bon, il y a. Ça, c'est juste un cimetière sous-marin où sont enfouies les illusions inhumaines. Bon, c'est assez. C'est rude quand même.
Oui, c'est rude.
Voilà, c'est rude. Oui. Mais il y a ce chant entre deux astres dont nous enchanter. Gaston Puel, voilà,
je peux pas. C'est magnifique, Paul. Son livre est magnifique,
voilà.
Oui.
Gaston Puel, voilà. Donc Gaston Puel, grand poète, d'ici donc, qui était du côté de la Vaud,
oui, c'est ça,
de chez nous.
À Veille,
voilà. Oui. Voilà, à Veille. On va finir donc par ce texte, page 88,
et oui. Le dernier texte, je pense qu'on va être dans les temps.
Oui.
Voilà, page 88.
Page 88, d'accord. Les mots se dérobent pour dire l'horreur. Les mots ne suffisent pas, qui sommeraient les puissances de cesser leur ignominieuse turpitude. Ces puissances expertes à soumettre à leur puissance putride les êtres humains et les autres vivants, jusqu'à l'infime atome terrestre. Dans les profondeurs du monde reposent nos impuissances en autant de refoulements que d'êtres. Ils surgissent régulièrement dans la conscience, mémoire explosive, souvenirs dérangeants de ceux qui sur terre ou dans les eaux ont perdu, perdent, perdront la vie. Est-ce consolation de dire les morts vivent dans l'espace ténu de mnémosyne blotti en chacun de nous?
Ouais. Bonne question. On va finir par le dernier texte.
Oui.
Tout à fait le dernier.
Le texte en prose.
Le texte en prose, voilà.
D'accord.
Voilà. Qui m'a fait penser tout à fait
à l'écriture. À Michel Mollepoix.
Ah oui. Tout à fait. Oui, c'est pour ça que j'ai tenu à en parler aujourd'hui.
Nous marchons dans les brisées du monde. À l'affût de sa beauté, nos pas cherchent une élargie possible. Le silence, parfois, enveloppe le vacarme au point qu'une étrange tranquillité nous traverse. C'est peut-être cela, vivre, sur la crête, au bord de l'abîme, entre la rumeur et le fracas. Au creux du silence, peut-être, des merveilles attendent-elles d'être cueillies, telle l'encolie dont la touffe serrée est une goutte de lumière dans l'ombre de la terre. Aimantés par le chant de l'oiseau, en écho à la vague du monde, nous marchons entre impermanence et permanence.
Voilà, nous marchons entre impermanence et permanence. Tout est dit, hein, ce que je disais en préambule, ce passage aussi, chez toi dans ton sourcil, sur le temps qui passe, ça, et tu finis là-dessus d'ailleurs, hein,
oui.
Tu finis sur cette interrogation sur le temps qui passe, sur cette disparition aussi qui est la conséquence de du temps qui passe,
oui. Hein,
ce qui est permanent et ce qui n'est pas permanent.
Et ce qui ne l'est pas,
voilà,
oui.
C'est la
vie et la mort.
Oui,
on est là.
Et nous sommes quand même ceux qui pouvons avoir une conception de l'un et de l'autre.
Oui.
Donc, très très beau texte, La rumeur, le fracas, où vous allez retrouver cette espèce d'odeur salée de l'océan, de paysages, où vraiment on est bien aussi complet dans les paysages que tu décris, que tu vis, on vit avec toi dans ces paysages, mais en même temps, en filigrane, il y a toujours, bien entendu, cette espèce de drame qui est lié à l'homme, hein, oui. Son activité, à la fois son activité, et puis aussi, et ça c'est de la philosophie, son destin qui est de disparaître.
Si ça finit.
La finitude.
Ah oui.
La rumeur, le fracas, est-ce que tu veux dire le dernier mot là-dessus sur qu'est-ce que tu...
Ben, je ne sais pas trop quoi dire. Hein, là, La rumeur, le fracas, je crois qu'on est là entre les deux, quoi.
Et on n'a pas parlé du silence, mais bon, c'est aussi...
Mais il est entre les
savoir,
deux.
Voilà,
il est là, voilà. Le silence, entre voilà. La rumeur et le fracas.
Voilà.
C'est quand on est plongé dans la rumeur qui nous berce et le fracas qui au contraire nous agresse, qu'on se dit ah tiens, il faudrait du silence.
Silence. Voilà. Le silence, c'est le ciment. Merci beaucoup Jean-Louis Clarac, La rumeur, le fracas, aux éditions Jacques André.
Le livre aura
14 mois à lire absolument. Et à très bientôt. Jean-Louis,
merci des
bon
merci.
Ce sont de drôles de vie. Vous souhaitez une excellente semaine à l'écoute de Radio Scénario et nous vous disons à la semaine prochaine à 17h.